France Inter. Le masque et la plume. Des films en salle et dans vos oreilles, c'est le programme du Masque aujourd'hui. Pour débattre de l'actualité du cinéma, sont réunis Muriel Joudet du journal Le Monde, Xavier Le Herpeur de la revue La 7ème Obsession et de France Inter, Pierre Murat, tel qu'en lui-même, et Ariane Allard de Positif. Au programme de l'épisode du jour figurent adaptation littéraire, comédie romantique ou biopic. Plus précisément, nous parlerons de La chambre de Mariana d'Emmanuel Finkiel, Oksana de Charlène Favier, La réparation de Régis Varnier, Le mélange des genres de Michel Leclerc et L'amour c'est surcoté de Mourad Winter. Tous en salle et en selle pour ce nouvel épisode du Masque. Presque tout le courrier de la semaine est consacré à un film, c'est Fanon de Jean-Claude Barni, dédié aux années algériennes de Frantz Fanon, psychiatre et figure majeure de la pensée décoloniale. Toutes et tous, vous célébrez le film et témoignez de deux choses. Un, des salles pleines. Deux, un public jeune. Alors je ne peux pas vous citer tous les mails et espère avoir choisi les plus représentatifs. Amancia Zimara de Créteil écrit « Le succès de Fanon a un sens, celui de remettre en lumière une personnalité, je dirais même un homme noir, qui a non seulement combattu la colonisation, mais aussi modernisé la psychiatrie. Et les deux vont de pair. On peut être critique sur la réalisation de ce film, mais c'est un fait. Il touche et amène les spectateurs à vouloir mieux connaître Fanon. Et pour cela, j'en remercie le réalisateur. Frank Schwab dit avoir appris l'existence du film grâce au bouche à oreille et il écrit « Certes, le réalisateur ne fait pas dans la nuance, mais pour cet auditeur, ce film appartient à ce qu'on appelle le cinéma coup de poing, tel que le pratiquait Yves Boisset hier ou un Raoul Peck aujourd'hui. Quant au défaut d'incarnation de Fanon pointé par certains critiques du masque, on ne joue pas l'intellectuel introverti qu'était Fanon, explique cet auditeur, comme on joue Rambo. » Plusieurs d'entre vous mentionnent une erreur que j'ai commise et que je rectifie ici. Fanon de Jean-Claude Barni n'est pas la première fiction autour de cette grande figure intellectuelle, puisque Abdennabour Zaza lui avait déjà consacré un film intitulé « Chronique fidèle survenue au siècle dernier à l'hôpital de Blida-Joinville, au temps où docteur Frantz Fanon était chef de la 5e division entre 1953 et 1956 ». C'est le titre entier. Le deuxième film que vous mettez au programme de votre courrier et qui vous divise, lui, c'est celui de Mike Lee, intitulé « Deux sœurs ». Si Pierre Desmartins de Pierre Latte témoigne d'une salle qui a communié avec ce chef-d'œuvre, Gabriella Réquillard résume le film comme ceci. « Voir deux sœurs, c'est comme passer 97 minutes dans une bagnole en sur-régime, sans nuance, mais avec beaucoup de redondance. » En revanche, vous êtes plusieurs à vous enthousiasmer pour « À bicyclette » de Mathias Mlécuze. Ça, c'est du cinéma, trois points d'exclamation, écrit Dominique Groupouy, une grande et sublime claque. Enfin, Joseph Martin Cambien, jeune spectateur croisé à Lyon et élève à l'école Michel Servet, nous raconte fabriquer Radio Michel Info, une émission qui a rendu hommage au masque avec une séquence intitulée « Le casque et le poil ». Titre à méditer. On commence avec « La chambre de Mariana » d'Emmanuel Finkiel, adapté du livre d'un des plus grands romanciers israéliens, à savoir Aaron Appelfeld. Nous sommes en Ukraine, en 1942, les nazis occupent le pays, rafles et arrestations des juifs se multiplient, et pour sauver son fils de la déportation, une mère le confie à Mariana, une amie d'enfance. Le garçon a 12 ans, il s'appelle Hugo. Mariana est une jeune prostituée qui travaille dans une maison close, dont les clients sont allemands, et elle va cacher Hugo dans le placard de sa chambre. On ne quitte quasiment jamais le point de vue du garçon, ce qu'il voit ou entend, à travers les interstices du placard, la fenêtre de la chambre, ce qu'il imagine, avant de sortir. Le film est interprété en ukrainien, Artem Kirik joue le jeune Hugo, et Mariana, c'est la remarquable Mélanie Thierry, qui retrouve Emmanuel Finkiel pour la troisième fois. Pierre.
C'est un très beau film, mais tu as raison d'insister sur Mélanie Thierry. Je voudrais dire à quel point elle est absolument exceptionnelle. Pas parce qu'elle maîtrise bien l'ukrainien, mais je la trouve dans le film d'une beauté, d'une sensualité, d'une lumière surtout. Pour moi, elle m'a rappelé, mais je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, une comédienne que nous adorons tous, me semble-t-il, qui est Jenna Rollands, surtout dans la première partie, avec cette coiffure, avec cette lumière qu'elle a dans les yeux, avec ce sourire. Le cinéma, c'est aussi des acteurs. Moi, j'adore les acteurs, les actrices. Et je trouve qu'on peut voir des films quelquefois pour une actrice et on peut voir ce film pour elle, pour Mélanie Thierry, qui est, à mon avis, mais époustouflante, sublime, de la première à la dernière image. Après, moi, j'aime beaucoup le film parce que je trouve que Finkiel est quelqu'un qu'on suit tous depuis son premier long qui s'appelait Voyage, qui était très très beau déjà, et je trouve qu'il
était déjà consacré d'ailleurs à la mémoire de la Shoah.
Oui, c'est ça. Et Voyage était un très beau film, et je trouve que ce qui est très beau, c'est cette espèce de pudeur, parce que moi, c'est vrai que j'y allais un peu, avec crainte, en disant oh là là, avec le sujet, ça risque de sombrer dans des clichés. Et je trouve qu'il s'en sort magnifiquement par une mise en scène qui arrive toujours à isoler un détail. Vous me direz, oui, forcément, c'est sûr, ça se passe dans une maison close, donc il ne peut pas sortir de la chambre. Je trouve qu'il joue de l'espace de façon absolument formidable. Peut-être j'aime un tout petit peu moins le dernier quart d'heure où on s'échappe de cette maison close pour arriver ailleurs. Mais tout ce qui est dit, tout ce qui est montré, et surtout le film paraît, vu tout ce qui se passe en France actuellement, mais indispensable. Donc pour la comédienne et pour la force et la beauté de la mise en scène, oui, c'est un très grand film.
C'est l'histoire d'un enfant dont le champ de vision s'élargit. Ariane.
Oui, alors moi je suis enthousiaste pour les mêmes raisons que toi, l'actrice, etc. Je trouve aussi que le dispositif, quand même, à la base, qui vient du roman, mais qui, à la base, est quand même très cinématographique. C'est-à-dire qu'on nous raconte la guerre et la Shoah en étant prisonnier, enfin, en quelque sorte, en tout cas, planqué dans un placard, dans un réduit, et ce réduit se trouve en lui-même dans une chambre close. Donc, je trouve que c'est déjà le...
chambre noire.
Voilà, une chambre noire, mais il y a aussi la chambre de Mariana, donc, Mariana, on l'a pas précisé, mais c'est une prostituée, donc voilà, c'est pour ça que je parle de chambre close aussi. Et je trouve que Finkiel exploite extrêmement bien ce dispositif, c'est-à-dire qu'on on comprend ce qui se passe uniquement par le ressenti de l'enfant, par les bruits, et aussi par son imagination, parce qu'il est obligé d'imaginer, puisqu'il ne voit pas les choses. Ça, je trouve ça très bien. Tu parlais de la Shoah, je trouve que ça parle aussi de l'enfance, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'enfant, quand on est petit, on capte des conversations d'adultes, on les entend, on ne comprend pas toujours bien ce qu'on nous raconte, et on se fait un peu des films, d'une certaine façon. Ça, je trouve ça très réussi. Après, moi, je suis comme toi, mais probablement pas pour la même raison. Je suis beaucoup plus réticente sur la fin. Je sais pas si on peut le dire ou pas.
Non.
En tout cas, je la trouve très problématique. Et elle m'a mise profondément mal à l'aise. Ouais, si. Alors, je pense que Finkiel l'a été également, parce que puisque je ne peux pas dire ce dont il s'agit, en tout cas, il filme ça hors champ. Et je pense que s'il filme cette scène hors champ, c'est que lui-même s'est posé la même question que moi. Et en l'occurrence, un jour, j'aimerais bien avoir une réponse. Pourquoi est-ce qu'il a voulu être fidèle jusqu'au bout à ce roman, roman qui date de 2008, alors que ce film a été filmé en 2024, donc après Me Too, et que ça pose des questions qui, à mon avis, sont très importantes.
Oh, si. Maître
et je suis désolée, mais si.
Oh,
mais si. Mais si.
Enfin,
c'est une relation entre un enfant et une adulte. Je suis désolée, ça pose de vraies questions. Voilà.
On n'a pas spolié, mais on a quand même raconté la fin. Merci, Ariane Alain.
Mais je suis obligée d'en parler, franchement.
Non, mais je te comprends pas sur ce point précis, mais je sais qu'effectivement, de temps en temps, on est un peu embarrassé par des fins qui nous posent et qu'on ne peut pas raconter. Moi, je peux raconter mon adhésion complète au film jusqu'au bout, y compris sur cette scène malaisante, mais volontairement malaisante, et qui a pour moi un sens, mais on ne la racontera pas plus que cela. Une chambre obscure, c'est une chambre de projection, c'est une chambre de cristallisation, c'est vraiment la définition première du cinéma.
C'est pour ça que je disais chambre noire, en fait.
Tu avais tout à fait raison.
C'est
exactement ça. C'est
caméra.
La photographie, puis c'est plus le cinéma. Avec non seulement ce qu'on perçoit, mais ce qu'on perçoit mal, puisque ce sont par des interstices que l'enfant voit ce qu'il est en train de découvrir du monde. Et tu avais raison de parler d'un champ de vision qui va s'élargir parce que c'est très beau et que c'est une métaphore du cinéma qui élargit notre vision. Et effectivement, c'est un énorme cliché. Vous avez le droit de me siffler, mais je le pense. Et en tout cas, moi, je l'ai vécu comme cela. Et puis, il y a la distorsion du son. S'il fallait effectivement compléter la sublimité de la mise en scène, c'est que cet enfant est tiraillé entre le son de l'extérieur, c'est-à-dire celui effectivement du mal en marche, les forces nazies, les exécutions sommaires, les tragédies, et en même temps effectivement ce bruit du plaisir tarifé, du plaisir fin, du plaisir exagéré, et entre les deux cet enfant va essayer de se construire. Donc je ne trouve pas la fin problématique comme toi pour cette raison-là, mais je respecte complètement ton point de vue. C'est remarquablement découpé, c'est remarquablement mis en scène, et vraiment moi ça me touche énormément parce que c'est un film qui arrive à être extrêmement contemporain sur ce qui nous forme, sur ce qui nous malforme, sur ce qui nous difforme d'une certaine manière, et en même temps ce qui nous construit, alors que c'est un film d'époque. Et je trouve que Finkel, comme d'habitude, filme sublimement, puisque c'est aussi l'autre thème de son cinéma, les fantômes qui passent et qu'on essaye de saisir et de retenir.
Muriel ?
Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est en effet la performance de Mélanie Thierry, qui, alors, m'a pas fait penser à Jenna Rollins, mais plutôt à Meryl Streep, qui, dans Le choix de Sophie, avait dû apprendre le polonais. Et je trouve que ce qu'il y a de fascinant à observer, c'est toujours comment une actrice s'insère dans une culture et une langue qui n'est pas la sienne. Et là, il y a un travail, une technicité.
On oublie que ce n'est pas la sienne.
Voilà, c'est une prouesse qui vaut de voir le film. Je suis un peu plus partagée sur le dispositif. Je trouve que le film est un peu pris au piège par ce dispositif. En fait, je pense précisément que si la fin est dérangeante, c'est que ce rapport un peu vicieux, cette maternité qui finit par être elle arrive trop tard. C'est-à-dire que...
Mais c'est peut-être pour ça qu'elle est malaisante, justement.
Voilà, elle est malaisante qu'elle arrive trop tard. Et il me semble que... Je me suis dit, ça manque peut-être, il n'ose pas filmer le sexe alors qu'on est dans une maison close. Et j'ai pensé à la version qu'aurait pu donner un Fassbinder ou même un Chabrol dans Une affaire de femme, où il y a comme ça des personnages de femmes vicieuses, à la fois victimes et en même temps bourreaux. Et là, j'ai l'impression qu'il ne va pas dans ce sens-là, dans cette possibilité du vice qui arrive beaucoup trop tard et qui, du coup, gêne parce que c'est le moment où on dit au revoir au film. Quoi.
Elle est présentée les deux tiers du film comme étant un substitut maternel.
Elle-même
une enfant mal de mère, c'est-à-dire qu'il y a quand même un rapport à la maternité.
Mais pourquoi pas, où est le problème?
La scène finale vient révéler une dimension du personnage qui arrive au moment où on dit au revoir au film. Et c'est,
mais ça évolue.
Faire l'amour avec ta mère,
comme dans la vie.
J'aurais voulu la voir un peu plus vicieuse dès le début.
Ça aurait été un énorme cliché.
Vous êtes très moralisateur.
Mais ça n'a rien à voir avec de la morale, c'était plutôt du cinéma. Déjà.
Plutôt, c'est ça que je dis. Voilà.
Mais la question de vue, elle est quand même posée et extrêmement bien questionnée pendant tout le film. Je suis désolée, Ariane.
Elle est présentée tout le long du film comme une mère et à la fin, tout d'un coup, elle devient initiatrice.
D'abord, elle pourrait. Hein,
donc, je suis d'accord avec Muriel. Il y a un moment donné, modifier, nuancer ce point de vue.
Débat est genré, les garçons contre les filles.
Est-ce qu'un spectateur ou une spectatrice souhaite participer au débat pour la chambre de Mariana d'Emmanuel Finkiel? C'est Guy. Je viens de l'entendre. Bonjour, Guy.
Oui, bonsoir. Bonjour, bonsoir. C'est Guy. Donc. Oui, je voulais revenir sur... Je voulais commencer par le fait d'avoir beaucoup aimé La Douleur, qui était le premier rôle extraordinaire déjà de Mélanie Thierry. Et là, on la retrouve en ukrainienne, parlant ukrainien. C'est absolument... si elle était remarquable dans La Douleur, là, je suis d'accord avec Pierre Murat, elle est lumineuse. Et alors, je voulais dire aussi que ce n'est pas un film sur la Shoah, mais plutôt sur une ode à l'émancipation et à la beauté. Et pour revenir sur la fin, que je n'ai pas du tout trouvé scandaleuse, cet enfant a quand même 12-13 ans.
12 ans.
Bon, voilà, et moi je me rappelle de moi à 12-13 ans.
Si j'avais vécu dans une
maison close, je peux vous dire que j'aurais maté les filles. Donc, voilà.
Mais là, ce n'est pas une fille, c'est une femme.
Y a une très belle,
si quelqu'un n'a pas compris la fin,
bon
c'est clairement...
Il y a un très bon plan où il a une torche et il explore le corps de d'Emmanuel Thierry. C'est très très beau.
De Mélanie Thierry.
De Mélanie Thierry, voilà. Et puis alors, ma prédiction, c'est qu'elle sera nommée au César vraisemblablement. Voilà.
Après La Chambre de Mariana, changement de registre, donc avec le nouveau film de Michel Leclerc, qui s'est fait connaître en 2010 avec Le Nom des gens. Son dernier long métrage s'intitule Le mélange des genres et il réunit Benjamin Laverne, Léa Drucker, Julie Piaton ou encore Judith Chemla, Léa Drucker et Simone, une flic infiltrée parmi les Hardy, un collectif féministe dijonnais qu'elle soupçonne d'être impliquée dans une affaire de meurtre. Alors que les Hardy sont sur le point de la démasquer, Simone tente de sauver sa couverture en accusant de viol le premier homme venu. Et ça tombe sur Paul, Benjamin Laverne à l'écran, modèle d'homme déconstruit, fermez les guillemets, qui vit dans l'ombre de sa femme actrice tandis que lui est un comédien de seconde zone. La domination masculine, l'activisme féministe, les fausses accusations de viol, les fins de non-recevoir face aux plaintes pour violences conjugales, autant de thèmes très contemporains que Michel Leclerc choisit d'aborder sur le ton de la comédie. Alors, est-ce que ça t'a fait rire, Ariane ?
Ben non, et j'en suis fort désolée, et fort Marie. J'ai vraiment une relation très contrariée à ce film que j'ai vu deux fois, parce que je me suis dit, c'est pas possible. J'ai dit que c'est contrarié, parce qu'en fait, moi, j'aime plutôt bien l'univers de Michel Leclerc. Enfin, c'est vrai que Le Nom des gens, ça reste pour moi une comédie que j'aime revoir avec un grand plaisir. Alors, j'ai plein de réserves sur le film. Je vais commencer doucement, piano. La première, je trouve que l'écriture est quand même assez pataude. Je trouve que la plupart des quiproquos sont quand même téléphonés, lourdingues. Le deuxième reproche qu'on pourrait lui faire, c'est qu'il met tout le monde au même niveau et tout le monde dos à dos. C'est-à-dire qu'on commence par une bataille entre des masculinistes et des féministes. Et je trouve que cette scène synthétise absolument le point de vue de Leclerc. C'est-à-dire qu'il n'en a pas. Soit il est dans un profond désarroi, soit il n'ose pas prendre parti, en tout cas il ne se mouille pas, et moi ça m'a un peu gênée. Mais la vraie raison pour laquelle moi je suis très réservée, et je sais, je vais encore me faire taquiner par Pierre, mais ce n'est pas grave, c'est le personnage de cette femme flic, c'est-à-dire cette femme flic, alors on a bien compris qu'elle était conservatrice, hein, elle fait quoi ? Elle fait une fausse dénonciation de viol. Okay. Et ça, c'est censé être le ressort comique ultime du film. Et moi, je suis désolée, aujourd'hui, faire d'une fausse dénonciation de viol un ressort comique et faire en sorte que ça devienne la dynamique du film. Alors d'accord, tout de suite, elle s'excuse, tout de suite, elle dit qu'elle a tort. Et en plus, comme ça, une autre façon de mettre la culpabilité du côté des femmes. Moi, ça m'a vraiment, mais vraiment gênée. Je trouve ça problématique aujourd'hui. Surtout dans le climat politique actuel, et surtout quand on voit les procès, enfin, je vais pas revenir sur le procès de Depardieu, je vais pas revenir sur la boue qui a sans arrêt sur les réseaux sociaux. Dès qu'une femme porte plainte pour viol, elle est soit accusée d'être une menteuse, soit d'être une manipulatrice. Et là, eh ben, on fait ça comme si c'était léger, comme si c'était marrant. Et le problème, c'est que le rire, pour moi, décrédibilise de toute façon la parole de cette femme. Voilà.
Oui, oui. Xavier.
Je ne serai pas applaudi, mais je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, là, j'ai l'impression que tu trouves des points comme ça d'ancrage dans le film pour essayer d'appuyer ton point de vue que je respecte complètement et qui est très légitime, mais qui pour moi n'est pas du tout celui de Michel Leclerc. Le quiproquo, il existe, mais il est malaisant d'emblée. Je ne pense pas qu'il provoque le rire. C'est plutôt ses conséquences qui, effectivement, prêtent à sourire. Et son point de vue, il est très clair. C'est celui d'un mec qui, on est de la même génération, a grandi avec son modèle masculin. Non, mais je parle de garçons, je parle de gens, oui. Excuse-moi. Bah oui, bah, mais pardon.
Ça, je trouve que ça montre bien le malaise.
Il y avait une injonction à la virilité quand tu y échappais pour des raisons X ou Y.
Il est question de mal-être masculin, ça c'est indéniable.
Ça c'est clair.
Pardon, on nous imposait cela et on était un peu tout seul pour essayer de se débrouiller quand on n'avait pas envie effectivement d'être Rambo. Et comme le dit très bien Michel Leclerc, on avait plutôt envie d'être Alain Souchon ou Mylène Farmer en ce qui me concerne. Donc, je pense que le point de vue, c'est aussi celui d'un homme déconstruit. Je pense qu'il n'y a jamais d'amalgame, jamais de faux pas. On peut lui reprocher peut-être de se disperser un peu. Il y a une scène avec des moutons qui est assez savoureuse, mais qui n'apporte pas grand-chose.
Des brebis, pardon.
Excuse-moi, ben, tu vois, mon côté rural est regagné par le côté citadin. Mais je ne pense pas qu'on puisse, encore une fois, ça n'est vraiment que mon opinion, faire de prêter attention à Michel Leclerc sur ce film-là, qui essaye de questionner avec beaucoup d'humour et des personnages qui ne sont jamais unitaires, qui évoluent constamment dans le film. Léa Drucker est formidable dans ce rôle de flic, effectivement dénonce parce qu'elle est prise de court. Et ce personnage de Benjamin Laverne, qui est un acteur raté, qui pose pour des paquets de cigarettes, qui pose pour le cancer de la gorge ou celui du foie, voilà, et qui est un type absolument mais bienveillant, gentil, qui croise à un moment d'ailleurs une féministe dans la rue, et c'est une scène absolument magnifique de confession où elle lui dit mais t'en as pas marre de faire le ouin ouin, putain, nous ça fait des années qu'on fait ça, on nous écoute pas, vous,
c'est
ça
le sosie
fait...
de Virginie Despentes,
bah,
d'ailleurs,
Virginie oui. Despentes, bien sûr,
c'est la meilleure scène du film,
et vous, ça fait un an que vous essayez de vous déconstruire et dès que ça vous retombe sur les doigts vous pleurez, donc vas-y, retourne chez ta mère. Et je trouve qu'il y a constamment une petite acidité supplémentaire dans le film qui contrarie ce que toi tu as vu comme une
série de
mécanique
énormément de maladroite
et que moi je trouve assez brillante.
Muriel.
Moi j'attendais ce film parce que je pense qu'il y avait matière à rire et à vraiment défouler tout le monde et matière à catharsis. Le problème, c'est souvent, j'ai ce problème avec Michel Leclerc, c'est que je trouve que c'est fait à la truelle et que la comédie, c'est de la précision, voilà, tout va, de la technicité. Et là, il y a vraiment un manque cruel de technicité, du montage, du découpage, du jeu d'acteur. Je sens que les acteurs sont balancés, il ne sait pas comment découper sa scène, ils ne sont pas harmonisés. On a l'impression vraiment que les acteurs viennent de découvrir la scène et viennent de découvrir leur partenaire. Et donc, tout est très mou. Ça, c'est la première chose, c'est que j'ai très, très, très peu ri. Ouais. Si ce n'est dans le personnage de Benjamin Laverne, qui prend pour lui toute la poésie du film, toute la sympathie de Michel Leclerc, et c'est un personnage assez beau.
Il y a à côté Pierre Richard, qui était un des rares modèles d'homme déconstruit.
Il est très beau, ce personnage. Et moi, je serais d'accord avec Ariane sur le fait que... mais j'en fais plus des arguments... d'hygiène comique quelque part. C'est vraiment, la comédie grossit des choses qui existent. Là, le film a tendance à grossir des choses qui n'existent pas. Notamment, on nous montre un collectif de féministes qui sont des bras cassés absolus. Oui. Hein. Elles sont débiles, elles sont paumées, elles sont mal organisées. Mais quand même, la police les infiltre et elles sont vécues comme une menace des pousses au crime, hein, puisqu'elles ont poussé une femme battue, à tuer son mari. Et ça me paraît être... Il faut avaler une invraisemblance.
Elles sont soupçonnées de l'avoir fait. Rien n'a
oui, absolument. Cette... Ouais, mais y a ça me paraît... C'est-à-dire que c'est début à la fin.
Vraiment, d'un point de vue politique, c'est évidemment problématique. D'un point de vue comique, je ne sais pas de quoi je dois rire, puisque on me les montre comme des paumés qui ne savent même pas manifester. Donc, c'est très compliqué et tout est un peu...
Cela dit, les collègues masculins de Simone, interprétés par Léa Drucker, en prennent aussi pour leur compte.
Oui, c'est très léger.
Moi, y compris son mari.
Et moi, pour moi, il y a un gros manque qui est le personnage du... J'aurais voulu voir un gros beauf agresseur dans le film. J'aurais voulu le voir exister. Franchement, je les avais oubliés.
Ils viennent ponctuellement.
Je les avais oubliés. Et il me semble que Leclerc essaye, en fait, de traduire à l'image des mécanismes qui n'existent qu'en ligne. Et donc, le fait de pointer du doigt un homme, les fausses accusations, les batailles qu'il peut y avoir entre des collectifs féministes et masculinistes, c'est des choses qui existent que sur Internet, en fait. Et c'est une chose qui n'a pas figuré. Et c'est un gros manque, ce truc de militance en ligne.
Est-ce qu'un gros macho, ce ne serait pas contre-productif en 2025 voir le mec arriver à 800 km comme étant déjà un violeur toxique, brut. Cherchons les machos là où ils sont.
Il y avait plein de blagues à faire sur les agresseurs.
Pierre.
J'ai lu pas mal de choses qui m'ont vraiment amusé parce que personne ne me semble aimer ce film. Alors, moi, je trouve qu'un film qui déplaît à la fois aux associations féministes, aux mecs déconstruits, aux masculinistes et aux flics, ne peut pas être totalement mauvais. Et je trouve qu'il y a des scènes très drôles. Alors, le problème... Parce que je fréquente pas beaucoup les flics, et je dois avouer que je fréquente assez peu les cercles féministes. Mais je fréquente quelques hommes déconstruits, et je peux vous dire que les hommes déconstruits, c'est à peine caricatural. Parce que je connais des mecs qui pourraient très bien dire ce que dit Benjamin Laverne dans le film. Merci de m'avoir accusé de viol, ça m'a appris des choses.
Ah ouais, la dernière réplique, elle est atroce.
Je trouve ça absolument vrai. Alors, mon grand problème sur ce film, qui est drôle, mais qu'il faut absolument pas prendre au sérieux, ça pourrait être beaucoup plus méchant. Bien sûr qu'on aimerait que Marco Ferreri, l'Italien, qui avait fait La Grande Bouffe, soit là, parce qu'il nous ferait faire un film bordélique, bancal, sauvage, sur ces thèmes-là. Mais c'est un film tout mignon, tout poli, et assez drôle. Le grand problème, c'est que Michel Leclerc n'est pas un réalisateur. C'est-à-dire que tous ses films sont extrêmement lourds, mauvais, et je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas du tout contradictoire. Je ne suis pas contradictoire. C'est un très bon scénario, il faudrait un metteur en scène.
Est-ce qu'une personne du public souhaite intervenir pour le mélange des genres de Michel Leclerc ?
Bonsoir. Ouais, alors moi, je vais me lancer.
Bonsoir.
Êtes-vous un homme déconstruit ?
Détruit, comme ils disent.
Moi, j'ai... Alors, c'est peut-être un peu la limite du film, mais finalement, je trouve que c'est un film, entre guillemets, je trouve, qui est plutôt pour les hommes. Et je trouve que c'est M. Le Herpeur qui l'a dit ça. Je trouve... notamment sur cette fameuse scène là avec la sosie de Virginie Despentes que j'ai trouvé extraordinaire, finalement, qui essaye de soigner un pseudo malaise, si on peut l'appeler comme ça.
Oui, enfin, lui dit arrête de faire moins quand même.
Oui, mais
c'est la façon Despentes de soigner.
C'est dans un langage qu'on considère particulier, mais le fond, je trouve particulièrement important. Après, ce que j'ai aussi aimé, c'est de voir comment on pouvait amener des gens à évoluer, notamment, c'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage de Léa Drucker, comment elle finit par se rendre compte de ce que c'est, finalement, et de bouger et de révolutionner sa vie. Ça aussi, j'ai trouvé ça particulièrement réussi. Et bon, il y a des lourdeurs, y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais franchement, je trouve que rien que pour laisser de parler à cette catégorie de personnes, je trouve que ça vaut le coup d'y aller. Donc franchement, ouais, il faut le voir.
Quelqu'un d'autre pour le mélange des genres de Michel Leclerc ?
Oui, je voulais un peu aller dans ce sens-là, et notamment il y a un passage qui que j'ai trouvé très intéressant. C'est au moment où Paul décrit son malaise d'homme déconstruit, qui malgré tout va être rangé un peu dans le camp des violeurs, des violents, des agresseurs, et qui dit son malaise de ne pas pouvoir faire autre chose que d'attendre qu'il y ait une, deux, trois générations qui passent pour que les choses changent et que la perception des choses change. Donc moi, je trouve que ce point de vue est quand même très intéressant. Et rien que pour ça, moi je conseille aussi d'aller voir le film.
Ce que je note, c'est que seuls des messieurs ont pris la parole.
Exactement ce que j'étais en train de me dire.
Une spectatrice a une dame devant.
Comme il y avait des messieurs, il fallait bien un peu rétablir ce grand déséquilibre. Moi, j'attendais beaucoup du film, de par le titre, le terme, le thème, les acteurs que j'aime tous beaucoup. Mais j'avoue que j'ai été déçue, parce que c'est bazar, ça part un peu dans tous les sens. Ce qui sauve le film, c'est les comédiens. Judith Chemla, en passionnariat féministe, elle est quand même savoureuse, on y croit à 2000%. Et Benjamin Laverne, qui est extraordinaire dans ce film-là. Parce que quand on l'a connu à ses débuts dans Radio Star, il partait quand même de loin. Et quand on l'avait vu dans le sens de la fête, où il est absolument savoureux, en cadre bancaire, très coincé, très condescendant, où on avait l'impression qu'il était tellement désagréable, il jouait ça tellement bien, on avait un peu l'impression qu'il ne saurait pas faire autre chose que ça. Et finalement, le registre et la palette de Benjamin Laverne est très, très, très large, et il est vraiment excellent. Mais le film...
ne
dommage,
vous a vraisemblablement
dommage,
pas convaincu.
Je suis déçue.
Le débat est vraisemblablement terminé pour Le mélange des genres de Michel Leclerc. Et on passe au nouveau film d'un cinéaste absent des écrans depuis 11 ans. Je veux parler de Régis Varnier, oscarisé et césarisé pour Indochine. Son dernier long métrage s'intitule La réparation. Quelques heures avant l'attribution de sa troisième étoile Michelin, le célèbre chef Pascal Jankowski, installé en Bretagne, disparaît pendant une partie de chasse avec Antoine, son second. Clara, fille de Jankowski et petite amie secrète d'Antoine, se retrouve obligée de prendre les commandes du restaurant de son père. Deux ans plus tard, elle reçoit une mystérieuse invitation pour un festival culinaire à Taïwan. Clara s'y rend et mène l'enquête dans l'espoir de retrouver les deux hommes disparus. Le milieu de la haute gastronomie, les paysages d'Asie, la réparation réunit Clovis Cornillac, qui joue Pascal Jankowski, et Julia de Nunez, qui interprète Clara. Xavier.
J'étais sûr que j'allais commencer. Alors déjà, rappelons que Régis Varnier vient de déclarer sa flamme à Mylène Farmer sur les antennes de France Inter.
Voilà.
Alors voilà, vous comprendrez que je suis un petit peu de parti pris. Mais j'aimais déjà le film avant d'apprendre effectivement que, comme moi, il voit un culte à la Belle Rousse.
C'est quand même deux fois que tu la cites, là.
Ouais.
Oui, bientôt vous ne l'entendrez plus. Donc voilà, vous ne l'entendrez plus, donc il faut bien quand même que je me rattrape. Et moi, j'aime bien le film de Régis Varnier. À ma grande surprise, je n'ai rien contre Régis Varnier dans l'absolu. Le film commence de façon un tout petit peu déroutante, on va dire, avec deux jeunes gens en costume d'époque Moyen-Âge qui se poursuivent dans la forêt. Je me suis dit, oh là là, où est-ce qu'on va? Et en fait, c'est un film... Le seul mot qui a manqué à ton excellent résumé, c'est transmission. C'est aussi un film sur la transmission, effectivement, un film sur la réparation, sur les racines familiales et sur les racines de la cuisine, qui sont deux thèmes qui sont extrêmement entremêlés dans le film. Plutôt malin, c'est-à-dire, il y a un moment, il y a une discussion entre deux chefs, il y en a une qui est là, Jean-Sébastien Bach de la cuisine, c'est-à-dire qu'elle peaufine jusqu'à la perfection un geste unique, et puis il y a un jeune chef de Taïwan qui, lui, en revanche, milite pour la fusion des genres, pour le mélange, pour amalgamer les racines, pour mélanger les parfums. Et je trouve que tout cela m'intéresse, tout cela me touche, et la manière dont cette jeune fille cherche son père jusqu'à inventer une hypothèse sur sa disparition, sur le fait qu'il serait peut-être encore en vie, créer un fantôme d'une certaine manière, encore une fois, m'intéresse énormément, parce qu'à quel moment est-ce qu'on reprend pied quand effectivement votre père n'est plus là, qu'il vous a légué avant de disparaître son restaurant et que vous n'en voulez pas, même si la jeune fille est douée, enfin en tout cas détentrice d'un vrai talent culinaire. Je trouve que se réconcilier avec les racines, en plus je trouve que tu as parlé de la grande cuisine, effectivement, il y a trois étoiles, mais c'est un vrai prolétaire de la cuisine, il le raconte, il vient d'un pays de l'Est, il y a quelque chose de fait lui-même, et Clovis Cornillac est très très bien dans ce genre de personnage, m'intéresse parce qu'on n'est pas non plus dans une espèce il n'est pas héritier en tout cas d'une tradition culinaire, il s'est fait lui-même et il pense faire un énorme cadeau à sa fille qui n'en veut pas, et c'est un poids avec lequel il va falloir qu'elle apprenne à vivre, plus la disparition du père. Et je trouve que le film, moi, m'a constamment intéressé par cette manière de ne jamais aller dans un sens unique, mais de trouver des digressions, des chemins de travers qui m'ont intéressé vraiment pour raconter effectivement cette histoire de réparation et de reconstruction.
En tout cas, je précise qu'on n'est pas encore dans On va déguster de François-Régis Gauzery. Vous écoutez Le Masque et la Plume. Ariane.
Moi, je vais déguster. Là, je sens que je vais déguster.
Non, tu as pas... En tout cas, tu as de la chance de déguster, parce que moi, je me suis quand même... j'ai trouvé ça quand même assez indigeste.
Oui, Xavier, déguste.
Je suis désolée, c'est pas la bonne semaine pour moi. Le scénario, déjà, je le trouve extrêmement mal foutu. À la moitié du film, le mystère, si tant est qu'il y avait un mystère, est éventé. Donc, du coup, on se demande après quoi on court.
Alors, non, il le relance.
Non, le mystère est terminé. On sait déjà ce qui manquait. Il est résolu, en tout cas, je dirais. Je trouve aussi, alors c'est un peu méchant, j'ai essayé de l'atténuer, mais je trouve le jeu des deux jeunes premiers, c'est-à-dire ceux qui sont censés être les atouts de cette pièce très mal montée, je trouve le jeu très fade. Il y a Julia de Nunez qui était bien meilleure dans la série Bardot, et puis il y a Julien de Saint-Jean qui était bien meilleur lui aussi dans Le Comte de Monte Cristo. Donc s'ils ont été bien meilleurs ailleurs, parce que je pense qu'il y a quand même un problème de caractérisation de leur personnage et de dialogue, ça ne vient pas d'eux en particulier. Je ne vais pas m'étendre très longtemps parce que je ne veux pas être absolument odieuse sur ce film. C'est vrai que Varnier filme très bien la nature. Voilà. Et il y a un moment qui m'a fait beaucoup rire. Je pense que c'est un moment involontaire, enfin en tout cas ironique, mais involontaire.
Tu viens de dire que tu ne voulais pas être méchante, mais enfin vas-y.
Non, mais c'est juste parce que j'ai plein d'exemples et je vais prendre le moins méchant. C'est un moment... Il y a un personnage qui est un critique gastronomique qui est à peu près aussi snob que suffisant. Il est fort bien joué d'ailleurs par Louis Daudelin. Et à un moment donné, il parle avec d'autres gens et il dit « Mais quelle histoire !» Et je trouve que la façon dont il le dit avec cette emphase, moi j'ai eu un grand moment de méta comme ça. Je me suis dit « Mais effectivement, c'est ridicule. Quoi. Cette histoire est ridicule de bout en bout. »
Pierre ?
Eh bien, c'est un film qui est le double absolument inversé du film dont on vient de parler, c'est-à-dire de Michel Leclerc. C'est-à-dire que chez Michel Leclerc, il n'y a pas de mise en scène. Chez Régis Varnier, il y en a une qui est assez élégante. Parce que ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est assez rare en France. Il aime les fresques. Et surtout, il aime le romanesque. Donc j'aime bien ça de lui. Et c'est un vrai metteur en scène. C'est-à-dire que c'est très élégant, la façon dont il approche les personnages, dont il renouvelle leur mystère. Et je suis d'accord avec toi, Xavier, c'est un mystère assez renouvelé presque tout le temps. Alors, le petit problème, c'est que sur un sujet comme ça aussi... Enfin, moi, c'est passionnant, le côté une disparition, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant, est-ce que... Il faudrait, à mon avis, sur un sujet aussi romanesque que ça, beaucoup plus de folie. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est l'inverse de l'autre, parce que le scénario de Michel Leclerc me plaît bien, mais la mise en scène est inexistante. Et ici, il y a une belle mise en scène, mais il faudrait vraiment quelque chose de... où ça s'embrase un peu.
Je propose qu'on les mette en couple. Michel Leclerc, Régis Varnier. Voilà. Ben oui. Muriel ?
Ouais. C'est un film très bizarre parce que j'ai l'impression que rien n'est filmé, tout est à distance, personne n'est caractérisé, Clovis Cornillac, c'est quand même un gros truc, ça, voilà, ce qui lui arrive, et on n'a pas eu le temps en fait, de voir quel était ce personnage. Et moi j'ai une théorie sur le film, c'est qu'en fait c'est un film qui raconte le fait que les femmes s'en sortent bien une fois que les patriarches tyrans disparaissent.
Une fois qu'elles ont tué le père.
Et franchement, regardez, parce que le film est très très cucu sur la transmission, mais si vous le voyez comme un truc en fait un peu Me Too, c'est génial. Le film génial.
C'est pas faux.
T'as vu ?
Il faut tuer le père.
Je suis pas d'accord.
Franchement, la transmission, c'est bon, on a compris. Quoi.
Ouais, mais pas par cette.
On est content quand il dégage quand même.
Bon, une intervention.
Elle le dégage.
Une intervention du public pour la réparation de Régis Varnier. Non, aucun bras ne se lève. Je clôt donc cette tribune consacrée à la réparation pour passer à Oksana. C'est le troisième film de Charlène Favier. Il est dédié à une figure féminine qui a existé. Elle s'appelait Oksana Chatchko. Elle fut artiste peintre et cofondatrice du mouvement féministe ukrainien Femen à la fin des années 2000. C'est donc un biopic qui se déroule le temps de la dernière journée d'Oksana à Paris, où elle est réfugiée. Elle erre dans la ville avant le vernissage de sa première exposition et par flash flashback, on suit la naissance de son militantisme en Ukraine, l'invention de l'esthétique féminine qu'on connaît, hein, seins nus, slogan peint sur le corps, couronne de fleurs dans les cheveux. Le film relate aussi les luttes des féminines contre le tourisme sexuel, les dictatures russes et biélorusses, la violence qu'elles subissent avant de s'exiler à Paris. Plusieurs documentaires ont déjà été consacrés au mouvement féminin et à Oksana. Charlène Favier a donc choisi de lui rendre hommage avec la fiction, et c'est Albina Corz qui l'interprète à l'écran. Film qui parle de féministes, à nouveau décidément, pour les sorties de la semaine. Muriel.
Bah, le film a beaucoup intéressé dans sa première partie, au sens où Charlène Favier, dont j'avais beaucoup aimé le premier film, Slalom, filme vraiment l'élaboration politique, quelque chose voilà, moi j'ignorais, donc il fait œuvre de pédagogie, donc pourquoi les féminines apparaissent, oui. Pourquoi aussi les seins nus, alors que moi j'aimais pas trop ça chez les féminines. On nous explique bien qu'en fait c'est quand même un truc qui est vraiment élaboré collectivement et qui a une vraie portée politique. Et on découvre que le mouvement féminin en Ukraine, en Biélorussie, en Russie, a une vraie efficacité. Chose que j'ignorais. La deuxième partie, pour moi, est très problématique parce que j'ai l'impression que Charlène Favier tombe dans le piège du biopic qui consiste à rester arrimée au point de vue de son héroïne et surtout à créer une sorte de martyr sublime. Il y a une sorte de romantisme du suicide. À un moment, je me suis dit, on est presque dans le biopic sur Amy Winehouse, parce qu'il y a vraiment comme ça le suicide qui plane sur toutes les séquences et qui l'empêche de faire le film qu'elle aurait dû faire et qui est en fait un film qui aurait dû nous dire qu'à partir du moment où le mouvement féminin s'exporte en France, il perd sa raison d'être. Et qu'en fait, c'est un mouvement qui n'est pas du tout français, qui est vraiment bien là où il est, c'est-à-dire en Ukraine, en Russie et en Biélorussie. Et c'est ce qu'on comprend entre les lignes, en fait, c'est qu'il y a eu une sorte de récupération, que aussi la récupération médiatique...
Elles avaient l'ambition, une ambition internationale, cela dit.
Oui, mais en fait, on voit que ça ne marche pas parce que c'est un mouvement qui est ancré dans le territoire où il est né. Et j'ai l'impression que Charlène Favier n'ose pas aller jusqu'au moment où elle va devenir méchante avec certaines féminines qui veulent un peu leur part du gâteau et avec les féminines parisiennes. Et pour moi, il y avait vraiment la place pour une grande satire politique un peu méchante, un peu marrante sur les féminines et qui n'est pas du tout là parce qu'en fait, elle est rivée à son héroïne.
Pierre, t'as pas l'air d'accord.
Si, je suis absolument d'accord. Non, mais je trouve que vraiment, j'y ai cru pendant 20 minutes parce que je trouve que la réalisatrice vraiment filme avec beaucoup d'émotion et de tendresse la naissance du mouvement et puis surtout les rapports que l'héroïne a avec sa mère, avec ses copines. Je trouve ça qu'il y a une vraie tendresse, une vraie émotion. Et plus le film devrait s'embraser, ou dans la méchanceté, ou dans le... Alors là, il n'y a plus rien, quoi. Alors je ne suis pas sûr que ce soit le mouvement qui soit intervenant, c'est simplement qu'elle n'a pas le talent qu'il faut encore, semble-t-il, pour faire une fresque, et ça devient obscur, et puis alors on se demande, donc là, je veux dire, on ne comprend pas très bien pourquoi elle se brouille avec les autres féminines, elle a un mal-être.
Si, ça se comprend très bien pour ça, c'est clair.
S'il y a une trahison amicale.
Non, ça n'a, à mon avis, au bout de 20 minutes, c'est vraiment académique, lent et pénible. Mais c'est dommage, parce que vraiment, les 20 premières minutes sont formidables.
Bah, je vais réconcilier tout le monde.
Xavier.
C'est-à-dire que jusque-là, on avait des films dont on aimait la mise en scène, mais pas le scénario. Hein, et bah, moi, je n'aime ni le scénario ni la mise en scène. Comme ça, au moins, c'est clair. Le scénario, c'est vraiment pour moi, mais l'exercice universitaire. On prend la date fatale de la jeune fille et puis on passe son temps dans des flashbacks à nous expliquer pourquoi elle va en arriver là où on sait qu'elle va en arriver. Donc, il n'y a déjà pas de progression pour moi qui sont un tant soit peu romanesques. Et le personnage aurait pu vraiment l'être. Il y a un côté comme ça, grande héroïne tragique. D'une certaine manière. Et puis le film est constamment, tu l'as dit Muriel, plutôt de manière bénéfique, mais moi ça m'a un peu gêné, il y a un côté très pédagogique. Pourquoi est-ce qu'on a mis les seins à l'air? Pourquoi est-ce qu'on a mis les slogans entre les deux mamelles? Enfin, tu vois, il y a un moment où on nous explique toujours qui est la méchante qui va arriver dans le groupe, pourquoi est-ce qu'il y a ça.
Pourquoi ça s'appelle féminine aussi?
Voilà, pourquoi elle s'appelle féminine, comment est-ce qu'on a trouvé ça, la scène de bar et tout ça, le patriarcat, le machisme.
Cela dit, moi j'ai appris des choses là.
Mais non, mais voilà. Bien sûr qu'on apprend des choses. Heureusement, le côté pédagogique sert à quelque chose, mais. Et la mise en scène passe son temps à annoncer ses effets à grand renfort de musique, là où il aurait fallu une sécheresse, quelque chose de rude, quelque chose comme ça d'âpre, et on est constamment dans attention, voilà une montée. Alors, soit elle fait un film opératique, et je prends, une Lucia dit la mère mort chez les femmes, moi je suis complètement fan, mais soit elle fait un film un peu réaliste et elle échoue.
Ariane, pour finir.
Qui me fout droit du regard.
Non, mais non, parce que moi, je conçois, c'est un film qui a des défauts, effectivement, aussi bien sur la forme que sur ses, voilà, ce compte à rebours aussi. Il est un petit peu gênant et déplacé, puisqu'on connaît la fin. Au départ, on sait que ça se termine très mal. Mais j'ai envie de le défendre pour une chose que tu as un peu abordée, Muriel, et je suis d'accord avec toi. C'est qu'à un moment donné, moi, la thématique du film, c'est pas seulement le martyr ou l'artiste maudite. Ça raconte aussi le parcours, au départ, d'une jeune femme qui lance un mouvement qui est quand même basé foncièrement sur le collectif. Il y a quelque chose de totalement idéaliste. Et elle se fond dans ce mouvement. C'est pas du tout une personnalité qui veut dominer tout le monde. Et précisément pour dénoncer la domination, la corruption, etc. Et ce mouvement, arrivé en France, eh bien, il est rattrapé par le goût du pouvoir, il est corrompu
par ces travers-là.
Par ces travers-là, et c'est ça qui est intéressant. En fait, moi, pour moi, la thématique de ce film, c'est la perte de l'innocence. Et en ça, je trouve que ça crée une œuvre très cohérente avec Slalom, le premier film de Charlène Favier, qui parlait de ça autrement, qui est un film effectivement remarquable. Mmh. Celui-là est plus brouillon, il est plus touffu, il y a une espèce d'élan très romantique effectivement qui parfois est un peu pesant, mais je trouve quand même que ça crée une œuvre très intéressante. En tout cas, moi, c'est une réalisatrice que j'ai envie de suivre.
Après Oksana, donc, on termine ce masque cinéma avec le premier film de Mourad Winter, adapté de son roman. Il s'agit de L'amour, c'est surcoté. Hakim Jemili est Anis, un jeune gars flanqué d'une bande de copains encombrants qui lui rappelle sans cesse à quel point il est nul avec les filles. 3 ans jour pour jour après le décès de son meilleur ami, Anis se jette à l'eau pour aborder Madeleine, interprétée par Laura Felpin. Benjamin Tranier figure parmi la bande de copains d'Anis et Clotilde Courau joue sa psy. Anis.
Oh non, fallait pas le dire.
C'est moi qui ai engueulé. Anis saura-t-il enfin trouver le chemin de l'amour? Qu'as-tu pensé justement de cette comédie romantique 2025, Xavier?
Effectivement, une ambiguïté sur le personnage, sur la caractérisation du personnage de Clotilde Courau. Merci Rebecca Manzoni, il n'y en a plus.
J'avais compris tout de suite que c'était sa psy.
Moi j'ai vu le livre, on ne peut pas vraiment appeler ça le roman, mais le livre de Mourad Winter, qui était vraiment un côté monologue du phallus. C'est-à-dire, il endossait un personnage qui effectivement était le degré zéro, tout le cerveau était dans les couilles, enfin vraiment, il y avait un côté, je regarde les nanas, j'y arrive pas, c'est obligatoirement de leur faute. Donc, quand on a annoncé une adaptation par lui-même au cinéma, je me dis, oh là, mon Dieu, est-ce qu'il va changer de point de vue? Et il change de point de vue. C'est une comédie romantique réinventée aujourd'hui, qui sait très bien ce qu'elle a envie de raconter sur les nouveaux hommes déconstruits et qui ne sont pas malheureux de l'être, chez qui ça offre un refuge, avec en face de lui une Madeleine qui est absolument mais savoureuse dans tous les sens du terme.
Laura Felpin.
Laura Felpin, qui est formidable, mais le rôle est vraiment extrêmement bien écrit aussi de cette manière-là. C'est une joute, c'est un garçon qui apprend effectivement à baisser les dernières gardes pour être enfin au niveau de celle qu'il a envie d'aimer, et je trouve ça bouleversant. Alors effectivement, c'est ponctué par des petites scénettes, des petits dialogues avec ce personnage qui est interprété par Clotilde Courau, et qui sont magnifiques parce qu'on ne sait pas très bien jusqu'à un certain moment comment les situer. C'est plutôt bien mis en scène, il y a un sens du rythme, il y a un sens du cadre, de l'observation des personnages, et les comédiens sont formidables, et effectivement, je m'attendais à quelque chose au vitriol, et j'ai quelque chose d'une fausse douceur que j'aime beaucoup.
Muriel.
J'ai trouvé ça vraiment catastrophique. En fait, c'est... Mais vraiment, en fait, je me suis dit, c'est typiquement les films qui devraient être balancés sur les plateformes, parce que sur un écran tout petit, où on ne verrait pas à quel point c'est pas filmé, c'est pas joué, quand les personnages se coupent la parole, c'est très mal joué. Et tout est comme ça. Je prends juste la première scène de rencontre où il descend les escaliers d'une boîte de nuit et il croise Laura Felpin et c'est au ralenti. Et la scène est expédiée en 30 secondes. Et tout le film fonctionne sur un principe qui consiste à dire, bon, en gros, tous les spectateurs savent ce que c'est une comédie romantique, donc on ne va pas filmer les scènes, on vous met un petit indice et vous faites tout le travail. Et j'étais catastrophée par l'absence totale de travail. Et en fait, c'est un peu à l'image de beaucoup de films qui misent absolument sur le charisme de leur humoriste et qui considèrent qu'un cahier de blagues et de vannes fait film. Alors qu'à la base, plein de choses m'intéressaient, notamment le fait de faire un film, une comédie romantique autour d'un personnage musulman pratiquant. Le début, je me suis dit, ah, enfin, on voit voilà, une bande de jeunes musulmans pratiquants qui sortent d'un enterrement religieux. Je trouvais ça super.
Ça a été beaucoup fait dans les séries télé,
oui.
Comme Rami, par exemple.
Je ne regarde pas de série.
Bah, regarde Rami sur Arte, c'est absolument génial.
Et donc, voilà, j'étais sidérée par le manque quasiment de respect pour le spectateur, quoi, où vraiment, on mise tout sur le charisme des deux acteurs.
Ariane ?
Mais puisque Xavier parle de série, moi, ce film que j'aime bien, qui pour moi est une bonne surprise, m'a fait penser à une série qui était diffusée sur Canal l'année dernière, qui s'appelait Enterrement de vie de garçon, qui était également avec des humoristes dans le vent, hein, puisque c'est un peu ça, qui viennent du stand-up. Et d'ailleurs, ce film, L'amour, c'est surcoté, c'est vraiment le titre, enfin, ça donne pas envie a priori, donc écartez le titre.
Et le
film pour Muriel.
Non.
Mais en
non.
tout cas, le titre, parce que le titre, c'est vraiment, voilà, une comédie stand-up.
Non, mais il y a une écriture aussi de la punchline.
Mais il y a une écriture. Voilà. Et en plus, surtout, moi, je trouve que c'est une comédie romantique qui parle de quelque chose qu'on voit peu. Toi, tu parlais, effectivement, c'est un jeune musulman, et c'est en plus
mais
un
c'est
film
pas un
sur
sujet.
Le deuil.
C'est pas un sujet.
Non, mais c'est quand même intégré. Et pareil, on voit un garçon qui est nul avec les filles depuis le départ, mais qui, en plus, a perdu son meilleur ami. Voilà, il est dans un état de deuil. Et donc, le film oscille entre des vannes mais permanentes, parfois très trash. D'ailleurs, il y a un personnage qui est quand même absolument odieusement antisémite. C'est un de ses copains. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'aller jusque-là. Parce que ça parle aussi de notre époque, ça, ce genre de choses. Et moi, j'aime assez que ce personnage d'Anis, alors toi, t'as cité Laura Felpin, on va quand même le citer. Il s'appelle Hakim Jemili, celui qui incarne ce personnage d'Anis.
Je l'ai cité.
Je parlais de Xavier, pardon, Rebecca.
Moi, il faut Rebecca, elle a fait.
Voilà. D'accord. Je trouve qu'il y a une vraie alchimie déjà entre les deux comédiens. Or, c'est quand même la base de toute comédie romantique, qui est quand même une alchimie entre les deux. Et ce personnage un peu flottant, un peu rêveur, un peu à la fois attachant et en même temps passif, venant d'un garçon qui vient effectivement, c'est précisé, d'une cité, d'un quartier, il est toujours entouré de sa bande de potes. On le voit pas si souvent et je trouve ça plutôt intéressant.
Pierre ?
C'est nul, c'est nul, c'est nulissime, mais c'est déplaisant en plus. Mais pourquoi on me force à passer 1h40 de ma vie avec des gens,
Pardon, c'est à cause de moi.
Oui, c'est à cause de toi.
Ou grâce,
avec
selon
des
les
gens
points de vue.
Bas de plafond, qui disent des conneries. Parce que ce que ces personnages disent des femmes, mais c'est honteux. Honteux, c'est d'une misogynie crasse. Seulement, évidemment, c'est pas grave. C'est humour, deuxième degré. Donc c'est pas grave.
Le personnage de Laura Felpin est un film femme qui est très intéressant,
aussi
qui est très complexe.
Le milieu, ce qu'il dit sur les homosexuels, c'est un film totalement homophobe. Mais évidemment, c'est pas grave. Humour. Alors, c'est antisémite. Mais c'est pas grave. Humour. C'est absolument déplaisant. Le pire, c'est quand même le silhouette qui n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est vrai, mais la mère adoptive de l'héroïne, qui est à la fois affligée d'un AVC et d'une chirurgie esthétique déficiente, qui est... Mais enfin, on n'a pas le droit. C'est d'un mépris absolu au bout d'un certain temps.
J'ai vraiment pas de cœur, parce que ça m'a fait rire. Bon, ma part. Il était de mauvaise humeur ce jour-là.
Et en plus, techniquement, c'est rien. Alors, tout ça, et en plus, il faut parce qu'ils sont tristes parce qu'il y a eu un deuil. Donc on excuse tout à cause de ça. Non mais enfin, sans blague.
On n'excuse rien, on suit le film parce qu'il faut
revoir des Joe D'Apato tranquillement. Puis voilà.
Une personne pour participer au dernier débat de ce masque sur l'amour si surcoté de Mourad Winter.
Oui.
Le temps que le micro vous arrive, Pierre Murat a chaussé ses lunettes et s'est avancé sur scène.
Je ne suis pas trop d'accord avec lui en fait, c'est ça le souci. Je suis totalement d'accord avec Ariane, merci. On voit la comédie française du tout venant, franchement, des fois on est désespérés. Et là, je suis ressortie de là avec la banane. Et je n'ai pas eu l'impression qu'on se moquait de moi en fait. Donc,
se moquait de la femme que vous êtes. Donc
exactement, le personnage de Laura Felpin est très bien écrit. J'aime aussi beaucoup la douceur du personnage, alors que ce n'est pas du tout comme ça qu'on représente en général ce genre de personnage. Donc, voilà. Et Benjamin Tranier m'a fait mourir de rire. D'ailleurs, il veut faire du cinéma. Je l'ai vu en spectacle hier soir, donc avis au cinéaste.
C'est déjà fait.
Donc voilà. Et donc, franchement, j'espère qu'il y aura un bon bouche à oreille avec ce film parce qu'il le mérite. Voilà.
Bon, je vais finir en disant, vous avez raison, madame. Non, mais je vais prendre la réplique immortelle de Danny Glover dans L'Arme fatale. Je suis trop vieux pour ces conneries.
Pour les coups de cœur, on commence le tour de table avec toi, Xavier.
Alors, donc, Rami, hein, disponible pour Muriel, justement, avec Rami Youssef. Excellente sitcom, enfin, excellente série humoristique, vraiment. Regarde-la, je crois que tu me remercieras. Mon vrai coup de cœur, c'est Comment devenir riche, entre parenthèses, grâce à sa grand-mère, fermez la parenthèse, un film thaï, un premier film de Pat Bunyipat. Et tout est dans le titre. Voilà, c'est l'histoire d'un adolescent qui aimerait bien réussir sa vie, mais qui n'a aucune envie de faire le moindre effort pour que ça réussisse. Et il se dit, mamie va bientôt mourir, est-ce que je pourrais pas récupérer son appartement, sa maison? Et il va donc devenir le petit-fils modèle grâce au conseil de sa cousine, sauf que la grand-mère n'est pas dupe, et ça va être une leçon de vie absolument savoureuse et extrêmement mélancolique, qui en plus vous apprendra comment on fait la queue dans les hôpitaux en Thaïlande.
Comment devenir riche grâce à sa grand-mère, film thaïlandais de Pat Bunyipat.
Oui, Bunyipat.
Ariane.
Alors moi je vais vous parler d'une série, mais d'une série qui est en lien avec le cinéma, puisque cette série s'appelle The Studio. Elle est en cours de diffusion sur Apple TV+. Elle est signée Seth Rogen. Alors Seth Rogen, c'est un acteur, humoriste, scénariste, réalisateur canadien. Et c'est surtout le golden boy, je dirais, de la nouvelle comédie US. Il a été révélé notamment par le cinéaste Judd Apatow dans une comédie que moi j'adore qui s'appelle 40 ans toujours puceau. Alors The Studio, c'est une satire. C'est une satire qui nous plonge dans les coulisses d'une société de production en crise à Hollywood, aux côtés donc de Seth Rogen qui incarne le directeur de cette société. Et c'est une comédie qui est réalisée en plan séquence. Il faut parler de la réalisation, Pierre, je pense que ça pourrait t'intéresser. Ça s'apparente à un tourbillon avec des dialogues ultra rapides, des apparitions jubilatoires d'invités vedettes comme Martin Scorsese, comme Ron Howard, comme Charlize Theron ou comme Steve Buscemi. Et le plus fort, et c'est pour ça que je vous la recommande, cette série, c'est que derrière cette fièvre comique et ce délire total, se niche, je trouve, pas mal de nostalgie. C'est une déclaration d'amour au cinéma et aussi une forme d'inquiétude et de mal-être que je comprends parfaitement. Bref, c'est extra. Ça s'appelle The Studio et c'est sur Apple TV+.
Pierre.
Alors, c'est un film qui sera en salle mercredi prochain, qui s'appelle Ghostlight, de deux réalisateurs, Kelly O'Sullivan et Alex Thompson. Et c'est l'histoire d'un homme d'une cinquantaine d'années qui travaille dans un chantier de voirie à Chicago et qui, par hasard, découvre le théâtre. Il va faire partie d'une troupe qui va jouer Roméo et Juliette. Alors, c'est un film qui est vraiment, on en sort heureux. Vous savez, il y avait, je ne sais pas si les plus jeunes d'entre nous connaissent un cinéaste qui s'appelle Frank Capra. Frank Capra, le film le plus connu, c'est La vie est belle, bien sûr. Mais il a fait, vous l'emporterez pas avec vous, monsieur.
Oh là, on est parti pour la film au complet.
Non, pas la film au complet. Mais c'est pour dire que Truffaut l'appelait le bon docteur de l'Amérique, parce qu'il soignait l'Amérique en donnant de belles histoires. Et ben, je trouve que c'est ça. Ça ressemble un peu à ce cinéma-là, on en sort content, heureux. Donc voilà, c'est un feel-good movie de qualité. Ça s'appelle Ghostlight et c'est à partir de mercredi prochain dans les salles.
Et on termine avec toi, Muriel.
Oui, moi, c'est 5 films de Manuel de Oliveira qui sont disponibles gratuitement sur le site d'Arte, avec un petit documentaire signé Virginia Pugh. Alors, vous pouvez commencer par un film parlé, un film de 2003, avec John Malkovich, Catherine Deneuve et Léonore Silvera. C'est l'histoire toute simple d'une mère, prof d'histoire, qui embarque sa fille pour une croisière le long de la Méditerranée. Et elles vont faire escale à Naples, Marseille, Pompéi, Istanbul et au Caire. Et quand Manuel de Oliveira va au Caire, c'est pour faire un plan. Un seul plan. Il ne va pas du tout rentabiliser son voyage. Et vous allez voir quel plan. Tout le film est d'une simplicité absolument incroyable. C'est vraiment l'anti-cinéma d'aujourd'hui. C'est incroyable. Et c'est d'une simplicité et d'une beauté absolument sidérante. C'est ce que j'ai vu de plus beau ces derniers mois. Ça m'a vraiment lavé et purifié le regard, et notamment de L'amour est surcoté. Et donc je vous conseille de commencer par celui-ci et ensuite vous regardez les 4 autres.
Et pour ma part, j'ai juste le temps en fait de vous donner le titre de mon coup de cœur. Je le développerai peut-être la prochaine fois. Le cinéma buissonnier, c'est donc le beau titre d'un livre d'entretien entre Jean-François Stévenin et Romain Sublon. Je vous en parlerai plus longuement la prochaine fois. En tout cas, Muriel Joudet, Pierre Murat, Ariane Allard et Xavier Le Herpeur, merci d'avoir participé à la tribune du masque aujourd'hui. La semaine prochaine, d'autres critiques pour une émission consacrée cette fois à l'actualité littéraire. Paul Laporte a réalisé cet épisode du Masque avec Julie Garraud, Valentin Bobinet et Tahar Bouklifa. Aujourd'hui, Ilinka Negulesco coprogramme l'émission préparée avec Nina Malray et Célestine Babinet. Rendez-vous la semaine prochaine sur France Inter, évidemment.